Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, je suis heureux d'être à nouveau avec vous. Voilà. Je vais essayer de me tenir à rester sur cette place-là. Je suis heureux d'être là parce que j'aime cette église. Vous êtes chaleureux, vous êtes aimants. J'étais là en train d'écouter les prières. Je disais quelle merveille de voir que ces prières s'enchaînent. Il y a du zèle pour le Seigneur. Vous aimez louer Dieu et c'est une chose incroyable. Et j'entendais dans les prières, eh bien, Seigneur, et je le dis moi aussi, tu es celui qui fait, celui qui bénit, celui vers qui nous voulons nous tourner parce que c'est avec toi que nous allons faire de grandes choses, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je vais apporter un message sur l'action de Dieu ce soir. Faisons une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. À partir du verset 32, jusqu'au verset 3 du chapitre 12. Il est écrit : Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux, dans le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, que dire ? Nous vivons dans un monde où l'être humain se sent de plus en plus puissant, je dirais grâce à la technologie qu'il développe. Et nous le voyons bien autour de nous. Le problème qu'il y a, c'est que plus il voit grandir cette technologie, plus il pense que sa puissance augmente avec elle. Ça, c'est le problème de l'homme. Et à force de penser de cette façon, eh bien, il arrive à oublier l'autre réalité qui est celle de Dieu. Et nous voyons que de nos jours, eh bien, Dieu est de plus en plus mis de côté de ce que les scientifiques vont appeler de cette équation. Parce que oui, il faut avouer que la technologie de l'homme eh bien, grandit jour après jour. Mais il faut aussi se rendre compte d'une chose très importante, c'est que la puissance de l'homme n'est en rien comparable à celle de notre Créateur. Et ça, beaucoup de personnes dérogent sur ça. Ils veulent le mettre de côté. Et même si de nos jours, eh bien, on va dire un grand nombre de personnes, et je pense une majorité de personnes, pensent être des personnes puissantes, sages, des personnes intelligentes, je vous assure, frères et sœurs, que la Bible sera toujours là pour nous rappeler, pour leur rappeler aussi, que de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Parce que la vérité, c'est que la vraie sagesse, c'est que la véritable intelligence et la toute-puissance n'appartiennent qu'à Dieu et à Dieu seul, dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi, même s'il est vrai que Dieu a donné un potentiel énorme à l'esprit de l'homme, et ça nous pouvons le voir aussi, eh bien cela ne doit pas empêcher le fait qu'il ne doit jamais oublier que sans Dieu, il reste faible, il reste superficiel et il reste éphémère. Et que nous acceptions de l'entendre ou pas, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de l'entendre, l'homme est une création de Dieu qui reste limitée devant la face de son Créateur. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui va dire aux habitants de Corinthe, il dira, « La sagesse de ce monde n'est qu'une folie devant Dieu. » Et il va le proclamer, et il le fera comprendre à de nombreuses reprises. Une folie parce que elle est malheureusement alimentée dans le cœur de beaucoup d'hommes qui va pousser ces gens à devenir prétentieux, à devenir orgueilleux. Une folie qui est en train de pousser l'humanité, je dirais, à faire de Dieu, justement, cette équation dont ils n'ont plus besoin. Une folie qui est en train de pousser ce monde à oublier que, eh bien, Dieu est infini, alors que nous, nous sommes des créatures finies. C'est de cette folie-là que le monde est en train de s'éprendre. C'est cette folie-là qui est en train de venir prendre possession dans le cœur du plus grand nombre de personnes qui peuplent la terre. Vous savez, la science est capable de faire de très belles avancées technologiques et nous le voyons tous. Il y a des domaines incroyables où la science fait des choses particulières. Mais il faut quand même se rendre compte que la science reste complètement ignorante, elle reste complètement aveugle dans ce qui concerne le domaine spirituel. Un domaine qu'elle ne peut ni comprendre, ni même maîtriser parce que la science ne s'appuie que sur des pensées humaines. Et ces pensées-là sont des pensées qui sont limitées. N'oublions pas une chose importante, c'est que toute cette connaissance scientifique que nous avons, cette connaissance, nous l'avons grâce à l'observation. Nous l'avons grâce à l'expérience, avec le temps. Ils apprennent face à ce qu'ils voient. Ce sont des informations qui fonctionnent uniquement avec des données. Des données qui sont intégralement fournies par quoi? Eh bien par nos cinq sens. C'est seulement par là. Et la difficulté pour la science, eh bien, c'est que lorsqu'elle va arriver dans un domaine qui s'appelle le métaphysique, c'est-à-dire le domaine de l'âme et de l'esprit, eh bien, il n'y a plus aucune donnée disponible pour elle. Et la science humaine ne peut plus avancer. Alors, elle préfère mettre ça de côté et penser, eh bien, que ce domaine n'est que fiction. Et elle encourage le cœur des hommes et des femmes à croire la même chose. Elle encourage le cœur de nos enfants même à croire cette chose-là. Frères et sœurs, la science et la sagesse limitée des hommes, je dirais, ne peut en aucun cas apporter une solution aux problèmes spirituels que nous allons rencontrer durant notre vie. Parce qu'il y en aura des problèmes spirituels. Et c'est très important de comprendre ça ce soir, parce que plus l'homme pense qu'il est puissant, et plus il va avoir cette tendance à détourner sa confiance de Dieu pour la placer en lui-même. C'est comme ça que nous fonctionnons. Vous savez, nous n'avons qu'à regarder autour de nous ce qu'il se passe. Combien sont ceux, frères et sœurs, qui aujourd'hui choisissent de croire en l'homme et d'oublier celui qui a créé la terre, celui qui a créé la mer, le ciel et l'univers tout entier? Combien sont ceux qui choisissent volontairement de le mettre de côté? Et j'ai fait partie de ces personnes-là durant de nombreuses années, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je puisse voir, eh bien, l'action de Dieu au milieu de ma vie, et que je sois confronté à une puissance si grande, une intelligence incroyable, quelque chose qui me dépassait tellement que je n'ai pu que m'incliner devant elle. Et c'est une grande tragédie, je vous le dis, que les personnes en oublient ce Créateur. La vérité, c'est que nous vivons des temps d'apostasie. Il y a un frère qui priait et qui disait cela. Nous vivons des temps de la fin et nous le savons. Des temps d'apostasie qui sont aussi directement liés à l'orgueil démesuré qu'ont les hommes devant la face de Dieu. Parce que c'est comme ça que commence l'apostasie. On rejette tout ce qu'il peut venir du divin pour croire que, bien que nous suffisons à nous-mêmes seulement. La réalité, frères et sœurs, c'est que si nous confions en nous-mêmes, eh bien, nous nous décevons très vite, il me semble. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans ma vie. Alors même s'il est vrai que la science progresse, et même si nous reconnaissons la valeur relative de cette science, en tant qu'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, nous devons chercher une voie qui est beaucoup plus puissante, une voie qui est beaucoup plus sage, afin de guider nos pas tous les jours. Une voix qui vient de Dieu, frères et sœurs, et qui va directement être capable d'atteindre notre âme, d'atteindre notre esprit par la puissance du Saint-Esprit. C'est cela que nous devrions rechercher. Voilà pourquoi ce soir, eh bien, il me semble bon de prendre le temps de nous rappeler que la sagesse et la puissance se trouvent en nous. Et les messages qui en parlent et qui le rappellent devraient être des messages constamment proclamés dans ce monde qui est recouvert de ténèbres, qui est recouvert par le péché qui aujourd'hui surabonde dans ce monde-là. Mais Dieu est tout-puissant, frères et sœurs. Et c'est exactement le témoignage que nous apporte l'apôtre Paul dans Hébreux au chapitre 11. Parce que même si ce chapitre, et je vous l'accorde, met l'accent sur la foi, eh bien, il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas la foi elle-même qui est puissante. Notre foi peut être ferme ou chancelante, mais elle n'est que le déclencheur indispensable de la puissance de Dieu. C'est par la foi que Dieu va agir, mais ce n'est pas la foi qui est puissante en elle-même. C'est Dieu qui reste tout-puissant. C'est Dieu qui agit à travers la foi que nous allons placer en lui. Et là, eh bien, il y a toute la différence. Et si nous continuons à penser de cette manière-là, cela évitera justement de dévier en pensant que de nous-mêmes, nous avons une certaine puissance, une certaine capacité, alors qu'en réalité, nous n'en avons pas. Seul Dieu qui va agir à travers nous nous permet et nous capacite et nous permet de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et si nous reprenons l'enseignement que Paul nous donne sur la foi, eh bien nous allons voir qu'elle consiste à croire fermement dans des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas encore. Et il dit afin de les voir s'accomplir à travers l'amour et la puissance de notre Dieu. C'est pour ça qu'il va dire dans Éphésiens au chapitre 3 et au verset 20, regardez, il dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons. » Vous imaginez la puissance. Elle surpasse même vos pensées. C'est dire à quel point notre Dieu n'a pas de limite. Notre cerveau est limité, même lorsqu'il s'agit de penser à ce que Dieu serait capable de faire. Et ça, eh bien, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu ce soir, celui qui est là, qui est présent et qui veut parler de cette action qu'il peut faire à travers la foi que vous allez placer. Ce soir, nous allons prendre le temps de voir certaines interventions puissantes de Dieu, les interventions que Dieu a réalisées dans la vie de certains hommes qui ont été cités dans notre texte de référence. Mais avant cela, j'aimerais commencer par vous rappeler qu'il existe aussi des obstacles aux interventions divines. Premièrement, il ne faut jamais oublier combien Dieu est grand. Parce que ça, c'est un des dangers auxquels nous sommes tous confrontés régulièrement durant notre vie chrétienne. D'ailleurs, si nous prenons le livre d'Ésaïe au chapitre 40 et au verset 28 et 29, il est écrit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Et c'est un verset que nous devrions garder dans nos cœurs parce que nous vivons des temps où parfois nous sommes à bout. Ça arrive que par moments nous disons « Seigneur, j'en peux plus, j'arrive aux limites » et c'est là, justement, que Dieu est capable d'intervenir. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui peut tout faire. Nous avons un Dieu qui a tout créé. Un Dieu qui possède une puissance infinie, je dirais. Une puissance si grande qu'elle dépasse largement, disait le texte, ce que nous pouvons nous-mêmes imaginer. Job disait ceci, « C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible même de les compter. » Quelle grandeur! L'esprit humain, vous savez, ne peut pas sonder complètement ce que Dieu fait. Et c'est la raison pour laquelle il reste toujours une part de mystère. Mais nous savons tous que Dieu seul fait de grandes choses. Et je pense que l'univers dans lequel nous vivons est en quelque sorte la démonstration de la grandeur de Dieu, frères et sœurs. Toute la création nous parle de la grandeur de Dieu. Et il nous suffit simplement de regarder autour de nous pour y voir la sagesse de Dieu,
pour y voir la puissance de Dieu, pour y voir l'intelligence de Dieu, mais aussi pour y voir son amour. Promenez-vous, regardez, même la nuit, le jour, regardez autour de vous ce que Dieu a créé, non pas ce que l'homme a créé, mais ce que Dieu a créé. L'homme ne le comprend pas encore, il essaye de l'analyser, il essaye de le comprendre. Mais malheureusement, l'intelligence qu'il a est limitée. Il s'acharne. Ils ont beau mettre des ordinateurs où on va rentrer des informations afin d'emmagasiner un maximum d'informations. Eh bien, même avec ça, il n'arrive pas à tout comprendre et il ne pourra certainement jamais tout comprendre parce que cela nous dépasse complètement, frères et sœurs. C'est la puissance de Dieu qui est là. Et il suffit de regarder la nature autour de nous. Il suffit de regarder les étoiles, la lune, le soleil. On cherche encore des galaxies qui ressembleraient à la nôtre. Il y a des hommes qui envoient mettre des milliards de dollars, d'euros pour essayer d'aller dans des endroits inconnus, pour essayer de trouver quelque chose. Alors que la réalité, ils n'ont qu'à se tourner vers la parole de Dieu pour y trouver celui qui a tout créé. C'est incroyable de voir quand même, eh bien, le cœur de l'homme, à quel point il peut être cru. Encore une fois, c'est Job qui va dire, au chapitre 12, au verset 7 à 10, il dit « Mais interroge donc des bêtes, et elles t'enseigneront, les oiseaux, et ils t'apprendront. Ou parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. » Vous imaginez, Job nous renvoie à poser la question à des animaux, en disant que même eux arriveraient certainement à comprendre mieux que nous qu'il y a un Dieu. Nous essayons de chercher des choses qui n'existent pas. Nous essayons d'inventer tout un tas de choses alors que la réalité est là devant nous. Elle est présente là et chaque jour autour de nous, en nous, la puissance de Dieu est là, l'intelligence est là. Et nous perdons du temps à mettre de l'argent, à faire des découvertes, au lieu peut-être avec certaines sommes, peut-être d'aider des personnes qui en ont besoin dans le monde. Vous savez, il y a des gens, je fais une parenthèse parce que cela m'est sur le cœur, mais il y a des personnes qui viennent nous voir et parfois qui sont même venues me voir en me disant mais Franck, tu parles dernièrement à l'évangélisation dans la rue, mais tu parles d'un Dieu qui est bon, qui est amour. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tout ce mal? Pourquoi est-ce qu'il y a cette misère dans le monde? Et pourquoi est-ce qu'il y a tous ces gens qui meurent de faim? Eh bien, tout simplement parce que c'est nous qui créons cela. Et c'est nous qui amenons le monde à devenir comme cela. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a créé le monde pour que l'homme s'y sente bien, mais il a demandé à l'homme de s'aimer les uns les autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'homme ne le fait pas. Et la réalité, elle est là. Il faut arrêter de remettre sur Dieu, eh bien, les fautes qui, en réalité, sont liées à notre comportement, à nos actions à nous, à notre manière de penser. Je ne parle pas spécialement de vous, mes frères et sœurs, mais je parle de cette manière qu'il y a de penser dans le monde. Et Job nous dit, allez interroger les animaux. Vous allez voir, ils vous parleront. C'est une réalité. Regardez les profondeurs sous-marines, ces choses extraordinaires qui existent. Quelle est grande et puissante la main. Et la grandeur de Dieu, frères et sœurs, ne doit ni être oubliée, ni même être négligée dans nos vies. Et lorsque tu passes par une épreuve difficile, lorsque les doutes sont là et qu'ils commencent à envahir ton cœur, eh bien, je t'encourage vivement à te mettre debout là où tu te trouves et à regarder autour de toi tout ce que Dieu a créé. Regarde la complexité de la vie qui t'entoure. Et rappelle-toi une chose très importante. Rappelle-toi que celui qui a créé tout cela est aussi celui qui veille sur ta vie. Il est aussi celui qui veille sur ta personne, jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Et à ce moment-là, la question ne se posera plus. Nous serons dans un endroit parfait, avec un Dieu parfait à nous. Frères et sœurs, il ne faut pas non plus prendre cette mauvaise habitude d'enfermer Dieu dans notre propre système de pensée ou même dans notre système d'action parce qu'il dépasse de loin nos propres raisonnements, notre Seigneur. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas parce que nous demandons à Dieu d'agir maintenant qu'il doit forcément le faire. Et de la même manière, ce n'est pas parce que nous estimons que la situation par laquelle nous sommes en train de passer ne mérite pas l'intervention de Dieu, que cela veut dire que Dieu ne jugera pas bon d'intervenir. Ce n'est pas à nous de décider. Notre rôle n'est pas de réfléchir à la place de Dieu, frères et sœurs. Notre rôle, C'est simplement de lui laisser faire ce qu'il jugera bon pour nous, tout en gardant une confiance absolue dans chacune des décisions qu'il prendra. C'est cela notre rôle à nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre rôle en tant que disciples de Dieu. Nous ne devons pas non plus, j'ai marqué, limiter Dieu à notre échelle. Parce que le risque, c'est de finir par croire en l'intervention de Dieu dans quelques domaines, mais seulement dans la mesure où elle nous semblerait à nous possible. Et en fait, c'est ce que je pourrais appeler enfermer Dieu dans notre système de pensée. Seulement, agir de cette façon, mes frères et sœurs, revient à fabriquer un Dieu à notre image, un Dieu limité. Et nous devons faire attention à ne jamais enfermer Dieu dans une case de notre manière de penser, de vivre, ou dans notre manière de voir les actions de Dieu. Et ce n'est pas tout. Parce que si nous agissons comme ça, si nous sommes capables de limiter l'action de Dieu, vous savez ce qu'il va se passer? Lorsque Dieu ne va pas répondre comme nous-mêmes nous le pensons, eh bien le doute va très vite s'installer dans notre cœur, et là, il va venir nous conduire à un sentiment d'échec, un sentiment de remise en question de l'action de Dieu dans notre vie. Prenons un exemple. Il y avait beaucoup de personnes à l'époque qui suivaient Jésus parce que ces hommes, et certainement certaines femmes aussi, pensaient qu'il allait délivrer le peuple juif de l'envahisseur romain. Seulement, on remarque qu'après avoir entendu les paroles de miséricorde et les paroles d'amour finalement qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ, et après avoir compris quelle était la pensée de Jésus au sujet de l'avenir des hommes, on a vu que nombreuses de ces personnes qui suivaient Jésus auparavant ont été déçues. Ils ont été déçus et plusieurs d'entre eux se sont détournés de lui pour rejoindre cette pensée qui alimentait les pharisiens, certains sadducéens même. Et certains ont même fait partie de ceux qui ont cherché par la suite à crucifier notre Seigneur. Et je pense que c'est tout doucement qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens en sont arrivés à ne plus croire en un Dieu qui a la puissance de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou que ce que nous pensons. Et je vous le dis de la part de Dieu ce soir, ne cherchons jamais à faire en sorte que Dieu agisse comme nous le pensons, et faisons très attention à ne jamais l'enfermer dans un de nos raisonnements, parce que les pensées et les désirs de l'homme sont des pensées et des désirs qui vont limiter l'action de Dieu dans une vie. Elles ne feront que limiter son action. Il y a un autre danger que nous courons tous. C'est le fait d'oublier ce que Dieu a déjà fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé. Et je pense que ça arrive régulièrement à beaucoup de chrétiens. Oublier ce que Dieu a déjà fait, non pas dans le sens où vous ne vous rappelez plus, il a déjà agi, mais d'oublier la puissance de Dieu. D'oublier que Dieu peut agir encore maintenant et qu'il agit encore aujourd'hui. Et je dirais que dans ce domaine, eh bien, les Israélites étaient l'exemple parfait, ou sont l'exemple parfait, de cet oubli de l'action de Dieu. Ce peuple hébreu avait vu de nombreux miracles avant de sortir d'Égypte. Et pourtant, lorsqu'ils ont été confrontés à quelques épreuves dans le désert, eh bien, ils ont de suite réussi à oublier tout ce que Dieu avait fait. Tout ce qu'il avait fait auparavant, c'est comme s'ils avaient oublié, les 10 plaies qui sont abattues sur l'Égypte. C'est comme s'ils avaient oublié cette mer qui s'est ouverte en deux, la traversée qu'ils ont faite au milieu, le fait qu'elle se soit refermée sur les Égyptiens, la nuée qui était là. C'est comme s'ils oubliaient tout dès qu'il y avait le moindre problème. Ils sortent d'Égypte et 3 jours après, ils se plaignent. Mais nous n'avons pas à manger, nous allons mourir de soif. Vous imaginez les miracles qu'ils venaient de vivre quelques jours plus tôt. Et ils en avaient vécu des miracles. Si nous avions vu nous-mêmes, l'eau, une mer se changer en mer de sang, si nous avions vu ces sauterelles s'abattre ou la grêle de feu tomber, ou ne serait-ce que ce qu'il s'est passé avec la mort des premiers-nés, si nous avions vu cette mer s'ouvrir en deux, comment aurions-nous réagi? Comment auriez-vous réagi, frères et sœurs? Ne me dites pas que ce n'était pas des miracles incroyables. L'action de Dieu était présente et démesurée, je dirais. Nous ne nous y attendons même plus aujourd'hui à voir cela. Et je vous assure que voir la puissance de Dieu se manifester contre les Égyptiens devait être quelque chose d'incroyable. Et je pense que ce que le peuple hébreu, ce que le peuple d'Israël était capable de faire en oubliant l'action de Dieu est aussi un petit peu ce qui nous arrive à nous. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Parce que lorsque Dieu nous sort d'une épreuve difficile, eh bien nous sommes là, nous nous mettons à genoux et nous remercions Dieu de tout notre cœur. Nous sommes comme émerveillés d'avoir vu la puissance de Dieu agir dans notre vie. Cependant, le temps passe. Et quand nous repassons par une épreuve qui est similaire à celle que nous avons déjà vécue, eh bien nous recommençons à trembler, frères et sœurs. Nous nous mettons à trembler comme si nous avions complètement oublié ce qu'il avait déjà fait pour nous la première fois. N'est-ce pas cela qui arrive dans nos cœurs et dans nos pensées? Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui oublient que Dieu ne change pas. Ne soyons pas de ceux qui oublient que la puissance de Dieu reste la même, parce que c'est exactement cette réflexion-là que Jésus a fait à ses disciples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Vous pourrez le relire. La Bible nous enseigne qu'à deux reprises, Jésus est là, il multiplie les pains, il multiplie les poissons pour nourrir des foules de personnes. Et il y en avait du monde. Et les apôtres qui, eux, étaient aux côtés de Jésus, ils ont vu cela, ils ont vécu cela, ils ont contemplé la puissance de Dieu. Et pourtant, ils ont très vite oublié ce qu'ils avaient vécu. Parce que seulement quelques heures ou quelques jours plus tard, on ne sait pas précisément, la parole de Dieu ne le précise pas, mais on sait que c'est très rapidement, eh bien, ils vont complètement mettre de côté ce qu'ils ont vécu auparavant avec Jésus. Jésus va les reprendre. Vous regarderez dans Matthieu 16, au verset 9 et au verset 10. Ça se passe quelques jours après la dernière multiplication des pains. Il dit, « Vous n'avez donc pas encore compris. Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués aux 5 000 hommes et combien de paniers vous avez remplis avec les restes et des 7 pains distribués aux 4 000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportées. Ne vous souvenez-vous pas, dit Jésus-Christ à ses disciples. Une vérité terrible, pardon, qu'il a dû révéler dans le cœur de ces hommes. Frères et sœurs, je vous encourage ce soir à ce que nous faisions partie de ceux qui ne leur ressemblent pas. Ne soyons pas de ceux qui, à force de penser par nous-mêmes, arrivons à oublier la puissance de Dieu. Ne faisons pas partie de ceux qui allons arriver à oublier tout ce que Jésus a déjà accompli dans notre vie. Et je vous assure qu'il est impossible de contrebalancer notre système de pensée humain si nous ne passons pas beaucoup de temps avec Dieu chaque jour. Du temps dans la prière, mais aussi du temps dans la lecture de sa parole. Vous savez, souvent on a l'impression que lorsqu'un pasteur est en train de dire « Mon frère, ma sœur, il faut que tu pries, il faut que tu lis la Bible, il faut que tu passes du temps avec Dieu », nous avons l'impression qu'il nous fait des reproches, mais la réalité, c'est que c'est pour notre bien. Il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a peu de temps en disant « Franck, c'est dur ce que tu dis. Tu dis qu'il faut lire la Bible et prier tous les jours. » Je lui ai dit « Écoute, c'est peut-être dur, mais ça va te sauver la vie. C'est ce qu'il faut faire. Notre âme a besoin d'être alimentée de la présence de Dieu. Sans cela, eh bien, nous ne sommes pas alimentés de sa présence. Et vous savez ce qu'il risque de se passer? Eh bien, nous n'allons plus avancer. Nous allons oublier que Dieu est capable de faire des choses incroyables dans notre vie. La communion avec notre Dieu est impérative dans la vie du chrétien. Jésus lui-même passait son temps à prier. Le matin tôt, la Bible dit qu'il se levait, il partait prier dans la montagne. Non pas qu'il faille aller dans une montagne pour prier, mais il voulait être à l'écart dans un endroit où il pouvait être seul avec le Père pour prier. Comment nous qui nous disons, eh bien, disciples de Christ, nous pouvons trop souvent, eh bien, ne pas faire cette chose-là, ne pas faire, eh bien, cette action qui nous rapproche de Dieu, qui nous permet d'être remplis d'onction. Dites-moi, combien de fois, cela vous est peut-être déjà arrivé, ça m'est arrivé, de ne pas avoir envie de rentrer dans notre chambre, parce qu'on passe par un problème, parce que souvent c'est ce qui se passe, dès qu'il y a une difficulté, eh bien, on a envie de bouder un petit peu. Alors que lorsqu'on voit David parler, il disait, justement, c'est quand je suis dans la difficulté que je m'accroche à toi, Seigneur. Eh bien, nous, on boude un petit peu, mais je m'efforce à aller dans ma chambre. Et lorsque je me mets à genoux et que je me mets à prier, je ressors de là avec la force d'un lion. Mais ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu qui est venu remplir ma vie et qui m'a rappelé qu'il est à mes côtés et qu'il va agir dans ma vie. Alors, pourquoi craindre? C'est cela que Dieu me dit dans la prière. Nous ne devons pas laisser de côté ces moments de communion avec notre Seigneur. Écoutez, Tout l'épître aux Hébreux nous parle de la puissance de Dieu. Et à travers elle, eh bien, Paul nous rappelle les actes que Dieu a manifestés dans l'Ancien Testament. Et il démontre que Jésus est supérieur à tout et qu'il est un sauveur parfait, chose que personne ne devrait oublier. Mais en plus d'affirmer la puissance de Dieu, l'apôtre est là et il va nous enseigner sur la manière dont il agit. Et nous allons nous arrêter quelques instants sur la diversité des actes de puissance de Dieu. Notre texte de référence disait « Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes ont pu vaincre des royaumes et fermer la gueule de lion. » C'est ce que le texte disait. « Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils ont mis en fuite des armées étrangères bien plus nombreuses qu'ils n'auraient pu jamais l'être. Ces hommes n'étaient ni parfaits, non, ils étaient comme nous et pourtant, Dieu a agi à travers eux, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont su lui faire entièrement confiance et parce qu'ils ont su ne pas limiter sa puissance. Là est la clé de l'action de Dieu. C'est la clé d'une foi affermie d'ailleurs. Être capable de lui faire confiance et être capable de croire que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est cela qui permet d'affermir notre foi. Regardez Gédéon. Gédéon, il a remporté des victoires contre les Madianites avec seulement 300 soldats. 300 soldats, non pas armés d'épées, mais 300 soldats armés d'une torche, d'une trompette et d'un vase. Ils ont fait fuir une armée. Et je ne parle même pas des milliers de Philistins qu'il a tués. Eh bien, par exemple, Samson. Samson, c'était un homme comme nous. Mais Dieu l'a utilisé pour faire des choses extraordinaires. Samson a tué plus de 1000 guerriers philistins avec une mâchoire d'âne. Qui serait capable de faire ça? Des soldats entraînés pour la guerre. Il n'avait qu'une mâchoire d'âne et il en a tué 1000. Et que dire de ce qu'il a fait lors du banquet? Nous voyons qu'à la fin de sa vie, Dieu lui redonne la force de faire s'effondrer un bâtiment, eh bien, qui relevait à l'intérieur, il y avait ce banquet avec toutes ces personnes importantes. Tous ces princes du royaume des Philistins, et ils sont morts là-dedans. Mais Samson, avec une force extraordinaire, a réussi à faire vaciller des piliers d'une bâtisse gigantesque. Ça, il ne l'a pas fait de lui-même. Aucun homme ne peut le faire. D'ailleurs, la preuve, c'est que lorsqu'on lui a coupé les cheveux, il n'avait même plus la force d'avoir à combattre contre une ou deux personnes. Mais lorsque Dieu lui a redonné, eh bien, cette onction, lorsque Dieu lui a permis de reprendre sa force en lui, eh bien, Samson était capable de faire des choses incroyables. David, nous le savons tous, a tué un géant qui s'appelait Goliath. Et il n'y est pas allé en s'entraînant pendant des mois, des années, comme certains nous voyons dans des films. Il y a des gens qui vont faire un combat et qui se mettent à s'entraîner pendant des années pour devenir le meilleur guerrier. Non, David, il a pris une fronde. Il a pris 5 pierres et il est parti combattre un géant qui faisait peur à toute une armée. David avait des frères bien plus grands et bien plus costauds que lui. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Samuel s'est épris pour le premier d'ailleurs d'entre eux en disant « c'est lui le roi ». Mais il n'y est pas allé celui-là. Pourtant il était grand et fort, il était entraîné. Non, qui est-ce qui est allé? Eh bien c'est le petit berger qui s'appelait David qui était jeune. Mais pourquoi est-ce qu'il y est allé? Il y est allé parce qu'il avait confiance en Dieu. Et parce qu'il avait la foi, il savait que Dieu était avec lui. D'ailleurs, il dira à Saoul, « Mais lorsqu'il y a un ours, lorsqu'il y a un lion qui vient saisir une de mes brebis, eh bien c'est par la force de Dieu que j'arrache la gueule du lion et de l'ours. » David n'avait pas peur, non pas parce qu'il était surhumain. Il n'avait pas peur parce que Dieu était à ses côtés, frères et sœurs. Et ça change tout dans notre vie. Et que dire sur Daniel? Daniel qui est remonté intact de la fosse au lion. Ou des 3 amis de Daniel, hein, Shadrach, Meshach et Abednego, qui eux ont survécu à la fournaise ardente. Même les hommes qui les ont jetés à l'intérieur sont morts, nous dit la parole de Dieu, tellement qu'elle était puissante ce feu, tellement qu'il brûlait. Et eux étaient là, et les gens les voyaient marcher dans le feu. Et lorsqu'ils en sont sortis sans lien, ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur les vêtements. Mais qui est-ce qu'il y avait avec eux? Eh bien, il y avait Jésus. Regardez l'histoire. Ils disent, mais c'est bizarre, on en a jeté 3 dans le feu et il y a 4 personnes dans le feu. Parce que Dieu ne vous laisse jamais seul. Mais si vous gardez une foi affermie, eh bien Dieu pourra agir. Et c'est ce qu'il s'est passé. Ces gens-là n'avaient pas peur d'aller dans la fournaise. Ils disaient, eh bien, nous avons un Dieu qui est grand et nous allons surtout faire sa volonté. Si Dieu veut que nous mourions ici, nous mourrons. Cela n'empêche pas que nous gardons foi en lui. Et puis si Dieu veut nous sauver, eh bien, vous verrez la puissance de Dieu. Et ce qu'il s'est passé, c'est que tout le monde a pu voir la puissance de notre Dieu. Et comme le disait notre texte de référence, je vais quand même parler au verset 35, il disait « Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection ». N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire aussi que notre Dieu a été capable de faire? Et ça, c'est le cas de la veuve de Sarepta, ou même de la Tsunamite, qui ont vu leur fils ressuscité. Une résurrection qui, je dirais, reste le signe le plus grandiose de la puissance de Dieu. Ressusciter un mort, mais n'est-ce pas incroyable? Vous savez, la Bible est remplie de ce type de récits extraordinaires. Mais nous pouvons remarquer qu'ils sont toujours le fruit d'une foi puissante en notre Seigneur. Toujours le fruit de cette foi-là. C'est pour ça que Hébreux, eh bien, nous le prenons comme ce chapitre de la foi. Ces hommes avaient la foi, alors ils ont vu. C'est comme cela que ça se passe. Et certaines fois, nous tremblons devant des situations, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à avoir la même foi que ces personnes-là. La Bible dit qu'ils n'étaient pas plus que nous. Ils étaient des hommes. La seule chose qu'ils avaient, que parfois nous n'avons pas, c'est qu'ils avaient une foi fermée. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Ils avaient une foi qui leur a permis de faire ce qui était juste aux yeux de Dieu et de recevoir ce qui leur avait été promis, dit la parole de Dieu. Dieu n'a eu cesse de manifester sa puissance à travers les siècles, frères et sœurs. Et c'est cette même puissance qu'il veut continuer encore aujourd'hui à manifester dans notre vie. Et nous devrions ne jamais l'oublier, vraiment le garder dans notre cœur. Entre le verset 35 et le verset 38, l'apôtre Paul va aussi affirmer les choses suivantes. Et je vais relire le texte, mais je vais le relire dans la version Semeur parce qu'elle est un peu moins... plus simple, on va dire, à comprendre. Il dit, d'autres, en revanche, ont été torturés. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux. Et là, on pense qu'il parle d'Ésaïe. D'Ésaïe ou d'Élie, enfin, c'est un des deux. C'est Élie, non? Ésaïe. Ouais, c'est ça, sur l'arbre. Ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, dénuée de tout, persécutée et maltraitée. Eux, dans le monde, n'étaient pas dit. Et c'est une suite qui paraît un peu gênante lorsque certaines personnes vont le lire. Ils vont dire, tu me parles de la foi que Dieu donne et regarde ces gens-là. Parce que beaucoup de personnes peuvent demander justement, où est l'action de Dieu pour ces gens? Où est la puissance de Dieu pour ces personnes-là? Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu, celui qui est si puissant? C'est ce que certaines personnes peuvent dire. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui est venu me le dire. Il est venu avec ses versets, pardon, et il m'a dit cela. Et la première chose que je pourrais répondre, c'est que la cause n'est certainement pas le manque de foi. Parce que sinon, ces hommes ne seraient pas cités dans la liste des héros de la foi. Et au verset 39, Paul va quand même préciser que Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Donc déjà, il ne manquait pas de foi. Mais alors, quelle est la raison? Si ce Dieu que nous annonçons est si puissant, quelle est la raison pour laquelle il n'est pas intervenu? Je vais le dire encore une fois. Il ne faut pas enfermer Dieu dans notre système de pensée humaine parce qu'il est quand même écrit dans Ésaïe 55:8 que ses pensées ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas toujours comprendre les choix de Dieu. Mais il est certain qu'il ne fera jamais rien qui pourrait nous perdre ou nous faire du mal spirituellement. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Tout le monde connaît ce verset. Et j'ai toujours beaucoup aimé le verset qui se trouve dans Matthieu 7:11 et qui dit « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants ». Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Tous les hommes qui sont cités par Paul au verset 35, vous savez, ont accès à cette récompense qui nous a été promise par Jésus. Ce qui m'amène à dire que la mort charnelle n'est pas une défaite lorsque nous appartenons à Dieu. Il y a des personnes qui interprètent ce verset comme étant un verset de défaite. Mais non, C'est une victoire en Jésus-Christ. C'est une victoire. C'est le commencement de la vie éternelle dans la paix, dans la joie et dans l'amour parfait. Et en ce qui concerne ces hommes de foi, l'apôtre Paul va quand même nous apporter une réponse qui va dans ce sens. Au verset 35, il dit « Ils ont refusé d'être libérés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. » Ces gens aspiraient à connaître une délivrance totale. Et l'aspiration qu'ils avaient de vivre dans la présence de Dieu était finalement plus forte que celle qu'ils avaient de vivre dans ce monde rempli d'épreuves, rempli de maladies, rempli de tristesse et rempli de haine. J'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui a vécu, eh bien, une situation auprès de Dieu incroyable. Dieu l'a prise dans, eh bien, c'est pas un songe parce qu'elle ne dormait pas, une espèce de vision, mais elle est sortie de son corps, elle s'est vue sortir de son corps et elle s'est vue monter, eh bien, des paliers, des ciels, jusqu'à arriver dans la présence d'un Dieu lumineux qu'elle ne pouvait pas voir. Et là, sa présence était tellement bonne que ce qui en est ressorti, c'est que lorsque Dieu lui a dit « Va dire cela à mon peuple », elle a dit « Mais moi, Seigneur, je préfère rester ici avec toi. J'ai plus envie de retourner en bas. » Et Dieu lui a dit « Non, il faut que je te renvoie. » Mais elle n'avait plus envie. Et il y a des personnes comme celle-là qui se disaient « À quoi bon rester ici ?» À quoi bon parfois dire « Seigneur, délivre-moi de cela » alors que la réalité, c'est que « Seigneur, si tu ne le veux pas, comme disaient les amis de Daniel, c'est pas grave, parce que nous savons où nous allons. Nous serons avec toi, et il vaut mieux aller avec toi, eh bien que rester ici et finir peut-être par nous perdre ou je ne sais quoi. » Ils avaient dans leur cœur cette envie d'aller auprès de Dieu. Écoutez, nous avons souvent tendance à tomber dans ce piège de chercher une explication à tout ce que Dieu ne fait pas dans notre vie. À tout ce que Dieu ne fait pas lorsque nous lui demandons, même au moment où nous sommes en train de lui demander. Seulement, nous ne devons jamais oublier que Dieu est un Dieu qui est souverain et qu'il sait bien mieux que nous ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. N'oublions pas non plus qu'il est un Père aimant, un Père qui cherche seulement à faire ce qui est le mieux pour ses enfants que nous sommes. Et souvent, eh bien, c'est à travers des épreuves que Dieu va nous parler. C'est souvent à travers des épreuves que Dieu va nous former afin de faire de nous, Paul dira, des adultes spirituels, des hommes faits, dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et je peux vous assurer que même dans les situations les plus extrêmes de notre vie, Dieu reste présent à nous. Il ne nous abandonne jamais, frères et sœurs, jamais. Je vais finir avec ce dernier point. Pour pouvoir vivre une manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie, il est très indispensable que nous ayons confiance en lui, confiance inébranlable dessus. Et la Bible nous démontre clairement que si toutes ces personnes citées dans Hébreux 11 ont réussi à avancer malgré les terribles épreuves qu'ils ont vécues, c'est parce qu'elles ont persévéré et qu'elles ont su placer et garder leur foi en Dieu. Parce que souvent, nous nous approchons de Dieu, nous plaçons notre foi en lui, mais nous ne gardons pas cette foi affermie. Avec le temps, eh bien, cette foi va chanceler un petit peu et elle va même s'accrocher certaines fois au monde un peu plus qu'à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul continue sa lettre en disant que si nous ne voulons pas être écrasés par nos fardeaux et par notre péché, nous devons nous aussi agir de la même manière que ces hommes de foi. Rappelez-vous, notre texte de référence continuait au chapitre 12, il disait « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Frères et sœurs, la foi est le moyen de vivre la force de Dieu, parce que c'est à travers elle que nous pouvons le voir agir dans nos vies. C'est par la foi que nous sommes capables de faire confiance à Dieu afin qu'il nous aide à tenir bon malgré toutes ces épreuves difficiles et toutes ces tentations que nous rencontrons chaque jour dans notre vie. C'est à travers cette foi affermie. Vous savez, je me suis rendu compte que très souvent nous mettons sous nos yeux comme un voile charnel qui nous fait entrevoir l'action de Dieu d'une manière faussée. Seulement, frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui oublient que Dieu agit pleinement lorsqu'on lui fait confiance. Ne mettons pas ce voile charnel devant nos yeux qui nous empêche de toucher à l'action puissante de Dieu dans notre vie. Alors moi, ce soir, je ne sais pas dans qui ou dans quoi tu places ta confiance. Peut-être qu'elle est complètement placée en Dieu, c'est une bonne chose, mais peut-être qu'elle est partagée. Un petit peu en Dieu, un petit peu dans le monde. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce que je sais, c'est que Dieu t'appelle à garder tes yeux fixés sur Jésus, et ça, tout au long de ta vie. Et si jamais tu t'es éloigné de Dieu, quelle que soit la raison, si jamais tu t'es éloigné de Dieu ou ta foi a failli, il y a eu un moment de faiblesse et tu as laissé la foi en Jésus-Christ un petit peu de côté. Un peu comme ce qui s'est passé avec Pierre qui par peur a renié Jésus. Il l'a renié 3 fois, son Seigneur. Parce que nos doutes et nos imperfections, frères et sœurs, si nous ne les chassons pas dans le nom de Jésus, peuvent être des choses qui vont nous amener à ressembler à Pierre, justement, qui a renié 3 fois Jésus à cause de la peur, à cause de certains raisonnements humains qu'il a pu avoir à ce moment-là. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Elle dit que juste après qu'il l'ait renié 3 fois, le regard de Pierre et de Jésus se sont croisés. Et ça, c'est important. Parce que ce soir, Jésus est là et Jésus te regarde. Et Jésus voudrait croiser son regard avec le tien. Pour quelle raison? Simplement parce que Jésus continue à nous regarder avec un regard d'amour. Un regard, lorsqu'il a regardé Pierre, il avait ce regard qui lui disait « Pierre, il est toujours possible de revenir à moi ». Et c'est ce regard que Jésus veut te donner ce soir, afin de t'expliquer que même si tu as laissé ta foi, il est toujours possible de revenir à Jésus encore maintenant et d'avancer à ses côtés. Jésus a un regard d'amour puissant envers chacun de nous, un regard si puissant qu'il a amené à Pierre à reconnaître ses fautes et ensuite à recevoir le pardon du Seigneur. Et nous savons tous qu'après cela, Pierre a été capable de suivre Jésus d'une manière correcte. Il a fait de grandes choses en Jésus, mais par Jésus aussi. Il a su garder la foi et à la fin de sa vie, lorsque un enfant est venu le chercher, il n'a pas tremblé. Mais au contraire, à la fin de sa vie, il devait aller jusqu'à la mort, il y est allé pour la gloire de Dieu. Et il avait foi, il allait tout simplement être délivré et qu'il allait passer l'éternité aux côtés de son Seigneur. Frères et sœurs, quelles que soient les épreuves difficiles que vous endurez, n'oubliez jamais l'action de Dieu dans vos vies. Dieu vous aime et Dieu ne vous abandonnera jamais. Seulement, gardons foi en lui. Amen. On va remercier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ces moments que tu nous permets de passer en ta présence et te demander, Seigneur, de nous aider à garder une foi affermie, Seigneur. Seigneur, quelles que soient les épreuves que nous vivons ce soir, que tu puisses être celui qui nous rappelle à quel point tu es grand, tu es puissant. Seigneur, aide-nous à ne pas trembler face aux problèmes, face à l'adversité, Seigneur, mais au contraire, à nous réfugier en toi et à garder, Seigneur, cette foi en ta personne, Seigneur. Je te remercie, mon roi, parce que je sais que tu nous aides et que tu nous encourages encore jour après jour à vivre une vie de foi en toi, mon roi. Merci pour tout. Amen.